foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Aïcha Isabelle. Bonjour, merci de venir nous parler de la journée internationale de Vivre en paix et de la pièce de théâtre Pierre et Mohamed. Vous avez plusieurs casquettes et nous étions
Bonjour
connus.
Benoît.
Oui, nous étions connus il y a déjà plusieurs années lors des journées internationales du Vivre ensemble en paix qui est organisée par le Cheikh Bentounes. Et j'avais été très honoré de recevoir, d'accueillir ici Sophia, la fille du Cheikh Bentounes, qui a organisé au niveau de l'Organisation des Nations Unies cette journée mondiale pour vivre en paix.
Et vivre ensemble en paix. Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui a été votée par absolument tous les États, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel pour le souligner, parce qu'il semblerait peut-être que le vivre ensemble en paix fait partie de notre ADN. C'est ce qui relie la famille humaine.
Oui, mais alors justement, sur le site de Compostelle Cordoue, nous avons aussi ici dialogué avec plusieurs personnes. Et la semaine prochaine, il y aura Manuel Pénicaud qui vient de nous parler d'un grand sage qui est à la fois catholique et musulman, Massignon. Sur le site Compostelle Cordoue, il y a eu un débat, vous dites une tension par rapport à l'actualité, notre responsabilité par rapport à l'Ukraine. Je parle aujourd'hui à un moment où à Saint-Sernin, il y aura un historien qui va nous parler des origines, des racines du conflit, puisque on peut accuser son adversaire de tous les maux. Mais chacun peut se renvoyer la balle. Or, je pense, vous avez présenté un petit papier. Si nous avions deux fils que nous aimons et qui se feraient la guerre, donnerions-nous des armes à l'un d'entre eux ?
Oui, j'ai écrit cela, en effet. C'est grâce à ça que vous m'avez invité. Est-ce que si on avait deux fils qui se faisaient la guerre, est-ce qu'on armerait l'un pour contre l'autre ?
Et
je pense que si on avait deux fils, c'est pas ce qu'on ferait. Et alors, je veux pas rentrer dans la polémique. Est-ce qu'on doit envoyer des armes, pas envoyer des armes? Je suis pas un homme politique, mais je suis très triste. Je suis très triste de voir qu'en ce moment, dans mon pays, il y a de plus en plus d'enfants qui détestent les Russes. Moi, j'ai vu les enfants de ma résidence jouer à la guerre avec les Russes. J'ai vu mon fils me dire, maman, contre les Russes, me dire, moi, je me prépare parce que bientôt, quand je serai grand, ce sera la guerre, donc je me prépare. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attriste et je pense que la guerre, elle naît d'abord dans le cœur des hommes. Et que si on voyait chaque être humain comme un frère, il n'y aurait plus personne pour faire la guerre à personne. Une guerre, elle n'arrive jamais seule. Et je vois qu'il y a tellement de dangers qui nous menacent. On a 70% de la diversité des animaux qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? J'ai l'impression qu'avec cette diversité qui disparaît, il y a aussi la diversité des idées. Parce que dès qu'on va émettre une opinion différente, c'est très, ça suscite des polémiques, on s'écoute plus. Et dire que oui, il faut penser à l'après-guerre, il faut penser à la médiation, il faut pas forcément toujours se positionner en arbitre, en... Voilà, c'était mon...
Un coup de cœur.
Un coup d'émotion,
et
un coup
dites,
de cœur.
C'est... Vous écrivez, je souhaite que tous les conflits s'apaisent en ce jour béni, ou en ces jours de Ramadan, où nous avons fêté Pâques, Jésus est vivant, il nous apporte la paix. Un de vos fils s'appelle Nour, et vous me dites, ben, c'est la lumière, et c'est...
Oui, Nour, c'est un prénom qui est à la fois, donc c'est un nom divin, Nour, mais c'est aussi un des prénoms du prophète Mohamed, et c'est aussi un des prénoms de Jésus.
Issa.
Oui.
Et vous dites, je souhaite vraiment qu'une nouvelle humanité s'éveille, où nous serons tous frères et sœurs. Et moi qui suis sociologue, et j'essaye d'être agnostique lorsque je parle dans cette radio, c'est-à-dire de ne pas privilégier une confession ou de dire les athées, c'est tous voués au feu de l'enfer. Je pense à Caïn et Abel, un vieux mythe comme le monde. Je pense à Joseph et ses sept frères. Et je pense, vous avez apporté aussi une phrase de Salomon et de la reine de Saba. Nous viendrons peut-être là-dessus, mais je ne voudrais pas trop disperser notre propos. Vous êtes en fait venu à Toulouse de Paris. C'était un choix.
Hein. En 2012, oui.
Au moment où votre fils Abdelatif était déjà âgé, mais vous cherchiez du travail et vous êtes maintenant dans la médiation. Vous venez de prendre 200 heures de formation.
Oui, je suis médiatrice en centre de rétention, mais ça c'est mon métier. Mais sinon, j'ai suivi une formation avec Michel Guillaume-Oufnoum, qui est une des pionnières de la médiation. Je suis très très fière d'avoir suivi la formation avec elle. Et c'est une formation qu'elle a dispensée notamment à une quinzaine de personnes d'Aïssa ONG. Donc parce qu'on pense que la médiation est aussi un élément clé de la culture de paix. Parce que la médiation, ce n'est pas la conciliation, ce n'est pas l'arbitrage, c'est quelque chose de très, finalement, dont on connaît beaucoup le nom, mais en réalité très peu connu. Parce que c'est un processus de communication éthique où un tiers, le médiateur, indépendant, neutre, impartial, va favoriser la réconciliation, la création de liens, la recréation de liens, le règlement d'une situation, mais avec des médiés, avec deux personnes ou plusieurs qui sont responsables et totalement libres dans ce processus, qui sont à égale dignité.
Dignité, c'est pour moi très important parce qu'il n'y a pas le mépris qu'on regarde dans l'œil de l'autre ou cette condescendance. Et dans ces temps où nous avions des masques, eh bien, on voyait bien que parfois, peut-être que le rictus ou les lèvres de mépris étaient cachées, mais les yeux étaient des yeux de haine ou au contraire de sourire. Je crois que dans votre métier, vous voyez bien cela. Et dans les centres de rétention, il y a aussi ce moment où il ne s'agit pas de tolérance, mais de la dignité du détenu, n'est-ce pas ? C'est ce que vous faites aussi tous les jours. Et puis, alors, votre travail aussi de mère de famille.
Oui. Oui, on a besoin de médiation. Vous avez parlé d'Abel et Caïn. Ça m'évoque un camp scout qu'on a fait parce que je fais partie des scouts musulmans de France. Et dans notre pédagogie, on utilise beaucoup la symbolique des prophètes, mais alors pour les petits, on utilise des oiseaux. On se base sur la poésie de Attar, la conférence des oiseaux. Et donc, c'est déjà arrivé que dans des camps, des fois, s'invite l'énergie des prophètes. Et quand il y a Abel et Caïn qui s'invitent, ça finit souvent en conflit.
Et dans la sourate 27, justement, qui évoque Salomon, il y a bien que Salomon hérite de son père David cette louange à Dieu qui nous a préféré à beaucoup de ses serviteurs croyants, David et Salomon. Mais Salomon dit « Ô vous les hommes, on nous a appris le langage des oiseaux. Nous avons été comblés de tous les biens. Voilà vraiment une grâce manifeste. » On rend grâce à Dieu. Alors, on, c'est nous les hommes et les femmes. Et nous rendons grâce à Dieu comme dans la Fatiha, la sourate 1. Qui est très proche du gloire à Dieu. Oui.
Je vous ai interrompu. Oui. Vous avez évoqué le langage des oiseaux et puis ça me fait penser à cette reconnexion nécessaire à toute la chaîne du vivant. Le fait les liens entre l'humain et le monde du vivant sont vraiment quelque chose à vivifier parce qu'au fur et à mesure on a toute cette diversité qui disparaît. Et voilà, aussi dans cette culture de paix, ce serait de proposer plus de choses positives qui nous fassent, par exemple, en ce moment, au sein d'Aïssa ONG, il y a un jardin, le Jardin de la Paix. C'est un événement qui a lieu en ce moment en Hollande, du 14 avril au 9 octobre. Vous pouvez tout voir sur le site d'Aïssa ONG. Donc, et dans ce jardin, il est conçu selon le nombre d'or. Donc le nombre d'or... On dit que c'est un principe simple. Moi, je trouve ça pas si simple que ça. C'est niveau seconde en mathématiques quand même. Mais c'est un principe qui montre l'infini, qui est une reproduction infinie de formes et qui est beaucoup utilisé en art, dans la géométrie sacrée. Et donc, ce jardin de la paix, il est conçu selon le principe du nombre d'or, donc comme une forme un peu de... de spirale
ascendante.
Ouais. Et pour montrer à quel point on est relié, on est un de ce monde du vivant.
Tout
et dans ce jardin, il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en avant. Il va y avoir une exposition sur les figures de paix, parce qu'on a besoin, je pense, de modèles inspirants. Donc ça peut être Baden Powell, l'émir Abdelkader, enfin des figures de paix. Il y en a, il faut juste les mettre en avant. Il va y avoir aussi de l'herboristerie. Et donc il y a cette petite citation que j'ai lue qui disait « il n'y a pas de mauvaise herbe, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la vertu de cette herbe-là ». Donc voilà tout ce que la création évoque sur nous-mêmes. Il n'y a pas de mauvais être humain non plus. C'est juste qu'on n'a pas trouvé ce qu'il apportait à l'ensemble de la création.
Ce que dit le pape François dans Laudato aussi, nous avons beaucoup insisté ici dans sur cette radio. Et vous nous parlerez aussi de ces moments de tension, puisque vous êtes venu pour évoquer l'émission de Pierre et Mohamed, hein, par le frère Adrien Candiar, parce que le samedi 7 mai, à l'espace de la diversité et laïcité, 38 rue d'Aubusson, il y a cette pièce de théâtre où on fait également mémoire des martyrs de l'Algérie, le thème central de cette pièce. Je ne vais pas ici déflorer la pièce de théâtre que beaucoup parmi nous connaissent, également le dimanche 8 mai, qui est à la fois la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps qui est le moment où nous allons évoquer la paix. Alors, vous nous avez apporté un chant, une mélodie qui est celle des confréries à Issac. Vous allez nous dire en deux mots, d'abord la confrérie soufie, qui est une branche de l'islam.
Non, ce n'est pas une branche de l'islam. Nous, on dit plutôt que c'est le cœur de l'islam, le
Pardon
soufisme.
Oui, mais...
Parce que c'est vrai que, en attendant, il s'est passé quelque chose d'assez curieux qu'un... Un islam qui était très traditionnel et très majoritaire dans tout le monde musulman, de l'Empire, des Ottomans, en passant par l'Empire moghol, en passant par l'émir Abdelkader, en passant par...
Jusqu'à Cordoue.
Donc de cet islam traditionnel, spirituel, qui était très majoritaire, est devenu aujourd'hui une branche. Mais non, c'est une école de sagesse et d'humanisme qui prend son énergie chez le prophète Mohammed lui-même. Voilà.
Hamid Demou était venu nous parler de la JVEP il y a 2 ans. L'année dernière, il y aurait dû y avoir plusieurs centaines de jeunes qui auraient marché, et puis le Covid nous a empêchés. Mais... prenons ce temps de pause et pour certains de prière, puisque vous dites que chaque jour du Ramadan, cette musique, ce poème est chanté.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, mi bismillahir rahmanir rahim. Shahru
صحابتي جمعا جمعا
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Alors, vous avez pu entendre donc dans cet intermède musical deux choses. La lecture d'un verset du Coran par notre chère sœur Nora de Paris, que je salue en même temps. Et donc, qui dit ce verset, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Alors, donc, c'est le verset qu'elle a récité, de la sourate la vache.
Aïcha, je vous interromps juste une seconde parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris l'émission en cours de route. Oui. Nous sommes bien sur Radio Présence. D'accord. Et nous sommes bien avec Isabelle Aïcha qui nous parle à la fois de la journée internationale pour vivre ensemble en paix et aussi de cette pièce de théâtre. C'est sur le site, hein, pour ceux qui voudraient reprendre le podcast, de Pierre et Mohamed. Qui ont été donc assassinés le 1er août 96. Et notre émission, c'est sur la paix, sur le dialogue entre les confessions et entre les personnes qui pensent que Dieu n'existe pas. C'est un fantasme. Alors que d'autres disent, au contraire, tout dans la nature, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, tout dans la nature nous fait penser à Dieu, que ce soit le chant des oiseaux, les plantes et la nature. Alors, la deuxième prière que nous avons entendue...
La deuxième prière que nous avons entendue est un poème que nous nous récitons à chaque mois du Ramadan, la Hamzia. Donc c'est d'un poète palestinien qui est à l'éloge du prophète Mohamed. Donc c'est une pratique qui se fait beaucoup d'avoir des poèmes sur le prophète, parce que le prophète, pour nous, c'est un peu une présence active et inspirante dans notre quotidien. Peut-être que si on est si actif sur la JVEP, c'est qu'on est poussé par cette présence. Et donc, dans ce poème-là, à la fois, il y a l'éloge du prophète, mais aussi il y a toute une biographie, toute l'histoire de sa vie, des compagnons. Donc là, j'avais noté un petit peu la traduction du poème qui a été chanté par les femmes. Donc ça parlait d'Omar, donc qui était un des compagnons du prophète. Omar, ce grand seigneur illustre qui fortifia l'islam encore souffrant, avec ses femmes aussi, Oum el Jamil, Oum el Fadlol. Ô Seigneur, que t'as... Et donc le Seigneur et le prophète sont présentés comme la source de la guérison et de miséricorde pour la création, pour les leurs et pour tous les compagnons, tant que les astres orneront le firmament. Donc il y a vraiment cette pratique d'éloge du prophète.
C'est ça.
Voilà, qu'on revit aussi pendant Ramadan, puisque Ramadan, c'est le mois du Coran, et que donc le Coran, c'est aussi le prophète, puisqu'il est révélé au prophète, et que chaque récitateur du Coran... Au moment où il récite, on dit les hafez, il est porteur du Coran, lui aussi, il est comme un... Il est mohammedien, il est dans cet état du prophète Mohammed.
Que vous cherchez à transmettre à la fois dans la famille, à vos enfants, et aussi à travers le travail des scouts, le travail, mais le plaisir de vivre ensemble, des scouts musulmans de France. Puisqu'il y a des sorties avec une ouverture sur la nature. Il y a des chants que nous avons entendus plusieurs fois lorsqu'il y a des journées du GAIC, du groupe d'amitié islamo-chrétien. Et puis, il y a aussi tout ce travail horizontal entre les différentes équipes de scouts. Certains avec les scouts israélites ou bien des scouts qui ne sont pas affiliés à une confession se retrouvent. Trop peu, sans doute, mais c'est important,
c'est
travail.
C'est très, très, très demandé par les jeunes. Les jeunes sont très, très demandeurs de temps de rencontre avec les autres membres du Collège du scoutisme français.
Pour s'entreconnaître.
Oui.
Puisque pour vous, la laïcité, vous aimez bien le redire, ce n'est pas de l'anticléricalisme, ce n'est pas la fin des religions dans l'espace public, mais c'est au contraire le fait que l'État français protège les cultes et donne la possibilité de ne pas avoir de religion ou de changer de religion.
Oui, jusqu'à preuve du contraire, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Donc on peut très bien... avoir ou ne pas avoir de pratique et pouvoir vivre sa pratique librement.
Mais c'est important de pouvoir la transmettre dans la famille et ce n'est pas toujours très simple, ce que j'aimais
alors,
beaucoup.
Alors dans la famille, moi j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas vraiment. Je ne sais pas ce que mes fils vont devenir. C'est vraiment, je compte plus sur les scouts
mais
que
Stéphane,
sur moi-même.
Stéphane, chaque fois qu'on le voit à des réunions interconvictionnelles, au-delà de confessionnelles, dit que la grande richesse, c'est la transmission entre les générations et le fait de pouvoir vivre à plusieurs générations. Nous savons les conflits et le scandale par rapport aux EHPAD, où les individus, nos aînés, sont considérés simplement comme des chiffres. Et dans la Bible et dans le Coran, tu honoreras ton père et ta mère. Donc la transmission, elle ne se fait pas seulement par l'apprentissage de dogmes ou de connaissances, mais par l'exemple.
Oui, la transmission importante, c'est celle des... Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est celle des valeurs. Au-delà du... Nous, ce qu'on dit souvent chez les scouts, par exemple, c'est qu'on veut que les jeunes deviennent des hommes et des femmes honnêtes, sincères, véridiques.
Et vous nous avez apporté les dates précises de la JVEP, parce qu'il ne reste plus que
alors,
deux minutes,
oula,
et il est important.
Alors, deux minutes, donc s'il reste deux minutes, donc la JVEP...
On peut aller sur le site Aïssa.
On peut aller sur la page Facebook des scouts musulmans de France... d'Ampalo, par exemple, où on aura toutes les dates pour sur Ampalo. Donc sur Ampalo, samedi 14 mai, à 14h, il va y avoir plusieurs stands, des activités ouvertes pour tous. Il va y avoir la diffusion d'un film à la Brique Rouge, en présence du réalisateur. Ah oui, le film, on n'a pas eu le temps d'en parler, le film « Nous tous », qui est un film qui est mis... alors je recherche le nom du...
Ils
allez
sur
voir
le
sur le site 16mai.org. Il y aura toutes les infos sur le film Nous tous avec le réalisateur Pierre Picard qui sera le mercredi 11 mai à l'Utopia Bordeaux Rouge, le lundi 16 mai au Centre culturel du quartier de la Brique Rouge à Ampalo, et donc le 14 mai, toute la journée des activités ouvertes à tous. Ce film Nous tous, c'est un film vraiment de médiateur où on va voir des gens qui ont vécu des situations de guerre en Yougoslavie, et qui étaient repliés sur des identités meurtrières et comment après ils ont refabriqué la paix en créant ensemble un club de sport, en créant des choses ensemble. Donc c'est un film qui pense à l'après, et puis ce qu'il faudrait aussi... Enfin...
Non, pas la vengeance, mais la paix. Est-ce que c'est ce qui est dit, puisque vous pensiez terminer par la sourate 1, que très peu de nos auditeurs connaissent, la Fatiha. Mais nous fêtons, en tout cas, nous, les chrétiens, fêtons le dimanche de la divine miséricorde. Et justement, dans la Fatiha 1, c'est celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour du jugement.
Celui dont nous implorons le secours.
Que vous connaissez par cœur, puisque vous le dites une fois par jour, n'est-ce pas?
Répète à chaque prière.
À chaque prière
et à chaque unité de prière. Donc, on la répète plus de 10 fois. Je ne saurais pas faire le calcul mathématique, mais
c'est toi que nous adorons.
De fois par jour.
C'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous.
Vers le chemin droit, celui de ceux qui...
Que tu as comblé de bienfaits.
Voilà, pas ceux qui encourent ta colère, ni de ceux que tu égares, ni de...
Et vous le dites en arabe, vous le dites en français.
Je la récite en arabe, mais bon.
Et vous la transmettez aussi, dans qui n'est pas votre langue maternelle, mais que vous avez apprise.
Oui.
Et on sait aussi que c'est important ce travail au jour le jour, comme c'est important le travail des rencontres annuelles comme celle de la JVEP ou de ces manifestations, je le redis, le samedi 7 mai à l'espace de la diversité. Venez pour ce rendez-vous interconvictionnel Pierre et Mohamed qui est mis par une pièce de théâtre avec Francesco Agnello, mise en scène et musique, et Jean-Baptiste Germain. Merci Isabelle, merci Aïcha d'être venue nous parler de votre foi, de votre conviction. Et merci aussi à Christophe pour la technique. À bientôt.
À bientôt, merci.